Chapitre 19. Rôle du médium dans les communications spirites. Influence de l'esprit personnel du médium. Système des médiums inertes. Aptitude de certains médiums pour les choses qu'ils ne connaissent pas, les langues, la musique, le dessin. Dissertation d'un esprit sur le rôle des médiums. 223. Question 1. Le médium, au moment où il exerce sa faculté, est-il dans un état parfaitement normal? Réponse. Il est quelquefois dans un état de crise plus ou moins prononcé. C'est ce qui le fatigue, et c'est pourquoi il a besoin de repos. Mais le plus souvent, son état ne diffère pas sensiblement de l'état normal, surtout chez les médiums écrivains. Question 2. Les communications écrites ou verbales peuvent-elles aussi provenir de l'esprit même incarné dans le médium? Réponse. L'âme du médium peut se communiquer comme celle de tout autre. Si elle jouit d'un certain degré de liberté, elle recouvre ses qualités d'esprit. Vous en avez la preuve dans l'âme des personnes vivantes qui viennent nous visiter et se communiquent à vous par l'écriture, souvent sans que vous les appeliez. Car sachez bien que parmi les esprits que vous évoquez, il y en a qui sont incarnés sur la terre. Alors, ils vous parlent comme esprit et non pas comme homme. Pourquoi voudriez-vous qu'il n'en fût pas de même du médium? Cette explication ne semble-t-elle pas confirmer l'opinion de ceux qui croient que toutes les communications émanent de l'esprit du médium et non d'esprits étrangers? Ils n'ont tort que parce qu'ils sont absolus. Car il est certain que l'esprit du médium peut agir par lui-même, mais ce n'est pas une raison pour que d'autres n'agissent pas également par son intermédiaire. Question 3. Comment distinguer si l'esprit qui répond est celui du médium ou un esprit étranger? Réponse. À la nature des communications. Étudiez les circonstances et le langage et vous distinguerez. C'est surtout dans l'état de somnambulisme ou d'extase que l'esprit du médium se manifeste, parce qu'alors il est plus libre, mais dans l'état normal c'est plus difficile. Il y a d'ailleurs des réponses qu'il est impossible de lui attribuer, c'est pourquoi je vous dis d'étudier et d'observer. Remarque. Lorsqu'une personne nous parle, nous distinguons facilement ce qui vient d'elle ou ce dont elle n'est que l'écho. Il en est de même pour des médiums. Question 4. Puisque l'esprit du médium a pu acquérir dans des existences antérieures des connaissances qu'il a oubliées sous son enveloppe corporelle, mais dont il se souvient comme esprit, ne peut-il puiser dans son propre fond les idées qui semblent dépasser la portée de son instruction? Réponse. Cela arrive souvent dans l'état de crise somnambulique ou extatique, mais encore une fois, il est des circonstances qui ne permettent pas le doute. Étudiez longtemps et méditez. Question 5. Les communications provenant de l'esprit du médium sont-elles toujours inférieures à celles qui pourraient être faites par des esprits étrangers? Réponse. Toujours? Non, car l'esprit étranger peut être lui-même d'un ordre inférieur à celui du médium et pour lors parler moins sensément. On le voit dans le somnambulisme, car là c'est le plus souvent l'esprit du somnambule qui se manifeste et qui dit pourtant quelquefois de très bonnes choses. Question 6. L'esprit qui se communique par un médium transmet-il directement sa pensée, ou bien cette pensée a-t-elle pour intermédiaire l'esprit incarné dans le médium? Réponse. C'est l'esprit du médium qui est l'interprète, parce qu'il est lié au corps qui sert à parler, et qu'il faut bien une chaîne entre vous et les esprits étrangers qui se communiquent, comme il faut un fil électrique pour transmettre une nouvelle au loin, et au bout du fil une personne intelligente qui la reçoit et la transmet. Question 7. L'esprit incarné dans le médium exerce-t-il une influence sur les communications qu'il doit transmettre et qui proviennent d'esprits étrangers? Réponse. Oui, car s'il ne leur est pas sympathique, il peut altérer leurs réponses et les assimiler à ses propres idées et à ses penchants. mais il n'influence pas les esprits eux-mêmes. Ce n'est qu'un mauvais interprète. Question 8. Est-ce la cause de la préférence des esprits pour certains médiums? Réponse. Il n'y en a pas d'autre. Ils cherchent l'interprète qui sympathise le mieux avec eux et qui rend le plus exactement leurs pensées. S'il n'y a pas entre eux sympathie, l'esprit du médium est un antagoniste qui apporte une certaine résistance et devient un interprète de mauvais vouloir et souvent infidèle. Il en est de même parmi vous quand la vie d'un sage est transmise par la voix d'un étourdi ou d'un homme de mauvaise foi. Question 9. On conçoit qu'il en soit ainsi pour les médiums intuitifs, mais non pour ceux qui sont mécaniques. Réponse. Vous ne vous rendez pas bien compte du rôle que joue le médium. Il y a là une loi que vous n'avez pas encore saisie. Rappelez-vous que pour opérer le mouvement d'un corps inerte, l'esprit a besoin d'une portion de fluide animalisé qu'il emprunte au médium pour animer momentanément la table, afin que celle-ci obéisse à sa volonté. Eh bien, comprenez aussi que pour une communication intelligente, il a besoin d'un intermédiaire intelligent, et que cet intermédiaire est celui de l'esprit du médium. Ceci ne paraît pas applicable à ce qu'on appelle les tables parlantes, car lorsque des objets inertes, comme des tables, planchettes et corbeilles, donnent des réponses intelligentes, il semble que l'esprit du médium n'y soit pour rien. Réponse. C'est une erreur. L'esprit peut donner au corps inerte une vie factice momentanée, mais non intelligente. Jamais un corps inerte n'a été intelligent. C'est donc l'esprit du médium qui reçoit la pensée à son insu et la transmet de proche en proche à l'aide de divers intermédiaires. Question 10. Il semble résulter de ces explications que l'esprit du médium n'est jamais complètement passif. Réponse. Il est passif quand il ne mêle pas ses propres idées à celles de l'esprit étranger, mais il n'est jamais absolument nul. Son concours est toujours nécessaire comme intermédiaire, même dans ce que vous appelez médium mécanique. Question 11. N'y a-t-il pas plus de garantie d'indépendance dans le médium mécanique que dans le médium intuitif? Réponse. Sans aucun doute. Et pour certaines communications, un médium mécanique est préférable. Mais quand on connaît les facultés d'un médium intuitif, cela devient indifférent. Selon les circonstances, je veux dire qu'il y a des communications qui réclament moins de précision. Question 12. Parmi les différents systèmes qui ont été émis pour expliquer les phénomènes spirites, il en est un qui consiste à croire que la véritable médiumnité est dans un corps complètement inerte, dans la corbeille ou le carton par exemple, qui sert d'instrument. Que l'esprit étranger s'identifie avec cet objet et le rend non seulement vivant mais intelligent, de là le nom de médium inerte donné à ces objets. Qu'en pensez-vous? Réponse. Il n'y a qu'un mot à dire à cela. C'est que si l'esprit avait transmis l'intelligence au carton en même temps que la vie, le carton écrirait tout seul sans le concours du médium. Il serait singulier que l'homme intelligent devint machine et qu'un objet inerte devint intelligent. C'est un des nombreux systèmes nés d'une idée préconçue et qui tombe, comme tant d'autres, devant l'expérience et l'observation. Question 13. Un phénomène bien connu pourrait accréditer l'opinion qu'il y a dans les corps inertes animés plus que la vie, mais encore l'intelligence. C'est celui des tables, corbeilles, etc., qui expriment par leur mouvement la colère ou l'affection. Réponse. Lorsqu'un homme agite un bâton avec colère, ce n'est pas le bâton qui est en colère, ni même la main qui tient le bâton, mais bien la pensée qui dirige la main. Les tables et les corbeilles ne sont pas plus intelligentes que le bâton. Elles n'ont aucun sentiment intelligent, mais obéissent à une intelligence. En un mot, ce n'est pas l'esprit qui se transforme en corbeille, ni même qui élit domicile. Question 14. S'il n'est pas rationnel d'attribuer l'intelligence à ces objets, peut-on les considérer comme une variété de médiums en les désignant sous le nom de médiums inertes? Réponse. C'est une question de mots qui nous importe peu, pourvu que vous vous entendiez. Vous êtes libre d'appeler homme une marionnette. Question 15. Les esprits n'ont que le langage de la pensée. Ils n'ont pas le langage articulé. C'est pourquoi il n'y a pour eux qu'une seule langue. D'après cela, un esprit pourrait-il s'exprimer par voie médianimique dans une langue qu'il n'a jamais parlée de son vivant? Et, dans ce cas, où puiserait-il les mots dont il se sert? Réponse. Vous venez vous-même de répondre à votre question en disant que les esprits ont une seule langue qui est celle de la pensée. Cette langue est comprise de tous, aussi bien des hommes que des esprits. L'esprit errant, en s'adressant à l'esprit incarné du médium, ne lui parle ni français ni anglais, mais la langue universelle qui est celle de la pensée. Pour traduire ses idées dans un langage articulé transmissible, il puise ses mots dans le vocabulaire du médium. Question 16. S'il en est ainsi, l'esprit ne devrait pouvoir s'exprimer que dans la langue du médium, tandis qu'on en voit écrire dans des langues inconnues de ce dernier. Il n'y a pas là une contradiction? Réponse. Remarquez d'abord que tous les médiums ne sont pas également propres à ce genre d'exercice, et ensuite que les esprits ne s'y prêtent qu'accidentellement quand ils jugent que cela peut être utile. Mais pour les communications usuelles et d'une certaine étendue, ils préfèrent se servir d'une langue familière parce qu'elle leur présente moins de difficultés matérielles à vaincre. Question 17. L'aptitude de certains médiums à écrire dans une langue qui leur est étrangère ne viendrait-elle pas de ce que cette langue leur aurait été familière dans une autre existence et qu'il en aurait conservé l'intuition? Réponse. Cela peut certainement avoir lieu, mais ce n'est pas une règle. L'esprit peut, avec quelques efforts, surmonter momentanément la résistance matérielle qu'il rencontre. C'est ce qui arrive quand le médium écrit, dans sa propre langue, des mots qu'il ne connaît pas. Question 18. Une personne qui ne saurait pas écrire, pourrait-elle écrire comme un médium? Réponse. Oui, et on conçoit qu'il y a là encore une grande difficulté mécanique à vaincre, la main n'ayant pas l'habitude du mouvement nécessaire pour former les lettres. Il en est de même chez les médiums dessinateurs qui ne savent pas dessiner. Question 19. Un médium très peu intelligent pourrait-il transmettre des communications d'un ordre élevé? Réponse. Oui, par la même raison qu'un médium peut écrire dans une langue qu'il ne connaît pas. La médiumnité proprement dite est indépendante de l'intelligence aussi bien que des qualités morales, et à défaut d'un meilleur instrument, l'esprit peut se servir de celui qu'il a sous la main. Mais il est naturel que, pour les communications d'un certain ordre, il préfère le médium qui lui offre le moins d'obstacles matériels. Et puis, une autre considération, l'idiot n'est souvent idiot que par l'imperfection de ses organes, mais son esprit peut être plus avancé que vous ne croyez. Vous en avez la preuve par certaines évocations d'idiots, morts ou vivants. Remarque. Ceci est un fait constaté par l'expérience. Nous avons plusieurs fois évoqué des idiots vivants qui ont donné des preuves patentes de leur identité et répondaient d'une manière très sensée et même supérieure. Cet état est une punition pour l'esprit qui souffre de la contrainte où il se trouve. Un médium idiot peut donc quelquefois offrir à l'esprit qui veut se manifester plus de ressources qu'on ne croit. Entre parenthèses, voyez la Revue Spirit de juillet 1860. Article sur la phrénologie et la physiognomonie. Fermez la parenthèse. Question 20. D'où vient l'aptitude de certains médiums à écrire en vers malgré leur ignorance en fait de poésie? Réponse. La poésie est un langage. Ils peuvent écrire en vers comme ils peuvent écrire dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Et puis, ils peuvent avoir été poètes dans une autre existence. Et, comme on vous l'a dit, les connaissances acquises ne sont jamais perdues pour l'esprit qui doit arriver à la perfection en toute chose. Alors, ce qu'ils ont su leur donne, sans qu'ils s'en doutent, une facilité qu'ils n'ont pas dans l'état ordinaire. Question 21. En est-il de même de ceux qui ont une aptitude spéciale pour le dessin et la musique? Réponse. Oui, le dessin et la musique sont aussi des manières d'exprimer la pensée. Les esprits se servent des instruments qui leur offrent le plus de facilité. Question 22. L'expression de la pensée par la poésie, le dessin ou la musique dépend-elle uniquement de l'aptitude spéciale du médium ou de celle de l'esprit qui se communique? Réponse. Quelquefois du médium, quelquefois de l'esprit. Les esprits supérieurs ont toutes les aptitudes, les esprits inférieurs ont des connaissances bornées. Question 23. Pourquoi l'homme qui a un talent transcendant dans une existence ne l'a-t-il plus dans une existence suivante? Réponse. Il n'en est pas toujours ainsi, car souvent il perfectionne dans une existence ce qu'il a commencé dans une précédente. Mais il peut arriver qu'une faculté transcendante sommeille pendant un certain temps pour en laisser une autre plus libre de se développer. C'est un germe latent qui se retrouvera plus tard et dont il reste toujours quelques traces ou tout au moins une vague intuition. 224. L'esprit étranger comprend sans doute toutes les langues, puisque les langues sont l'expression de la pensée et que l'esprit comprend par la pensée. Mais pour rendre cette pensée, il faut un instrument. Cet instrument est le médium. L'âme du médium qui reçoit la communication étrangère ne peut la transmettre que par les organes de son corps. Or, ces organes ne peuvent avoir pour une langue inconnue la flexibilité qu'ils ont pour celle qui leur est familière. Un médium qui ne sait que le français pourra bien, accidentellement, donner une réponse en anglais, par exemple, s'il plaît à l'esprit de le faire. Mais les esprits qui trouvent déjà le langage humain trop lent, eut égard à la rapidité de la pensée, puisqu'ils l'abrègent autant qu'ils peuvent, s'impatientent de la résistance mécanique qu'ils éprouvent. Voilà pourquoi ils ne le font pas toujours. C'est aussi la raison pour laquelle un médium novice, qui écrit péniblement et avec lenteur, même dans sa propre langue, n'obtient en général que des réponses brèves et sans développement. Aussi les esprits recommandent-ils de ne faire par son intermédiaire que des questions simples. Pour celles d'une haute portée, il faut un médium formé qui n'offre aucune difficulté mécanique à l'esprit. Nous ne prendrions pas pour notre lecteur un écolier qui épelle. Un bon ouvrier n'aime pas à se servir de mauvais outils. Ajoutons une autre considération d'une grande gravité en ce qui concerne les langues étrangères. Les essais de ce genre sont toujours faits dans un but de curiosité et d'expérimentation. Or, rien n'est plus antipathique aux esprits que les épreuves auxquelles on essaye de les soumettre. Les esprits supérieurs ne s'y prêtent jamais et quittent dès que l'on veut entrer dans cette voie. Autant ils se complaisent aux choses utiles et sérieuses, autant ils répugnent à s'occuper de choses futiles et sans but. Cédiront les incrédules pour nous convaincre, et ce but est utile, puisqu'il peut gagner des adeptes à la cause des esprits. À cela, les esprits répondent : notre cause n'a pas besoin de ceux qui ont assez d'orgueil pour se croire indispensables. Nous appelons à nous ceux que nous voulons, et ce sont souvent des plus petits et les plus humbles. Jésus a-t-il fait les miracles que lui demandaient les scribes ? Et de quel homme s'est-il servi pour révolutionner le monde? Si vous voulez vous convaincre, vous avez d'autres moyens que des tours de force. Commencez d'abord par vous soumettre. Il n'est pas dans l'ordre que l'écolier impose sa volonté à son maître. Il résulte de là qu'à quelques exceptions près, le médium rend la pensée des esprits par les moyens mécaniques qui sont à sa disposition, et que l'expression de cette pensée peut et doit même le plus souvent se ressentir de l'imperfection de ses moyens. Ainsi l'homme inculte, paysan, pourra dire les plus belles choses, exprimer les pensées les plus élevées, les plus philosophiques, en parlant comme un paysan. Car on le sait, pour les esprits, la pensée domine tout. Ceci répond à l'objection de certains critiques au sujet des incorrections de style et d'orthographe qu'on peut avoir à reprocher aux esprits et qui peuvent venir du médium aussi bien que de l'esprit. Il y a là de la futilité à s'attacher à de pareilles choses. Il n'est pas moins puéril de s'attacher à reproduire ces incorrections avec une minutieuse exactitude, comme nous l'avons vu faire quelquefois. On peut donc les corriger sans aucun scrupule, à moins qu'elles ne soient un type caractéristique de l'esprit qui se communique auquel cas il est utile de les conserver comme preuve d'identité. C'est ainsi, par exemple, que nous avons vu un esprit écrire constamment « Jules » entre parenthèses sans S, en parlant à son petit-fils, parce que de son vivant, il l'écrivait de cette manière, et quoique le petit-fils, qui servait de médium, sût parfaitement écrire son nom.